Alors on va reprendre cette semaine à Corinthiens 14, hein, et on va lire la suite ce matin. Et on va lire les versets 29 à 40. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Alors, dans notre passage ce matin, Paul aborde deux sujets, celui de la prophétie et celui de la place de la femme dans l'Église. Mais derrière ces deux sujets, finalement, le cœur du passage, c'est l'ordre dans l'Église locale. Et si on voulait prendre un verset clé de notre passage, ce serait certainement le verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix ». Alors, on a déjà évoqué le désordre qui régnait dans l'assemblée de Corinthe, notamment dans l'exercice des dons. On ne va pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit. Si vous voulez écouter le message précédent, vous pouvez le trouver sur le site ou vous pouvez demander à François qui vous le gravera sur un CD. Simplement pour résumer courtement, le don de prophétie dont Paul parle ici, servait à nourrir le peuple de Dieu parce qu'il n'avait pas encore la totalité des Écritures, donc du Nouveau Testament. Et donc les prophètes apportaient la nourriture spirituelle en attendant que la révélation soit achevée. Et comme on l'a vu donc, dans le précédent message, ce don de prophétie n'était pas destiné à durer, mais à perdurer. Paul dit au chapitre 13 que les prophéties allaient être abolies, donc après lui, et Dieu a mis un terme aux prophéties le jour où le Nouveau Testament a été achevé. Mais en attendant, à l'époque de Paul, donc, il explique eh bien, comment faire usage de ce don de prophétie. Il dit que ce soit avec ordre, avec bienséance. Et le problème, c'est que de même que les chrétiens de Corinthe parlaient en langue tous en même temps, donc des langues étrangères, les prophètes en même temps prophétisaient. Alors c'était vraiment, je vous laisse imaginer ce que ça devait être lorsque tout le monde faisait ça en même temps. Ça devait être quelque chose. Hein. De l'extérieur, quelqu'un qui est entré devait se dire, mais ils sont hystériques. C'est une folie. Hein. Alors Paul va remettre de l'ordre. Il va leur dire que pour les prophètes, que seulement deux ou trois parlent, et pas tous en même temps, chacun leur tour. Apparemment, ils parlaient tous en même temps. Donc, certains essayaient de couvrir la voix des autres pour qu'on entende leur prophétie plutôt que l'autre. Vous voyez un peu la chose. Et Paul dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, normalement, conduits par le Saint-Esprit, tous ne devaient pas parler en même temps. Hein, logiquement, ils devaient s'attendre et puis s'écouter les uns les autres. Hein. Et donc, Paul remet de l'ordre hein, en leur disant, voilà comment vous devez exercer le don de prophétie. Mais il y avait une autre cause de désordre dans l'assemblée, et ça va être donc le sujet de ce matin. On va relire les versets 33 à 35. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et là, on entre dans un brûlant sujet, surtout dans notre 21e siècle particulièrement. où on revendique la parité, on revendique l'égalité homme-femme, et on condamne toute forme de sexisme de partout. À partir des 17e et 18e siècles, on va commencer à voir apparaître quelques femmes qui vont se battre pour permettre une plus grande égalité et une plus grande reconnaissance de la femme. Et j'aimerais d'abord donner une introduction sur la valeur de la femme. Et ce serait se tromper complètement que de dire que Dieu a peu d'égard aux femmes. Parce que quand on prend ce passage, certains vont le prendre pour dire « Mais regardez, Dieu veut dominer, il veut que les hommes dominent, donc il n'a aucun égard aux femmes, et vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a du machisme ici. » Et les choses ne sont pas ainsi. Quand on lit le Nouveau Testament, et quand on lit les Évangiles, et quand on regarde un petit peu la vie de Jésus-Christ, on voit que Jésus-Christ, le premier, est celui qui a élevé la femme, qui a protégé la femme et qui lui a donné une place bien plus importante que celle qui lui était donnée dans la société de l'époque. Il les a valorisées. Je pense d'abord à la femme adultère. Les religieux l'amènent devant Jésus pour la condamner. Et ils vont essayer de mettre Jésus en porte-à-faux avec la loi. Et une femme ne valait pas grand-chose. Qu'est-ce que c'était que lapider une femme? Et pourquoi, eh bien, ils agissaient de cette manière? Pourquoi ils voulaient mettre cette femme? En fait, ils attendaient que Jésus, en fait, la condamne. Et finalement, ce n'est pas du tout ce que Jésus va faire. Il va la protéger, bien qu'elle était quand même coupable. Il va la protéger devant tous ces hommes qui étaient hypocrites. Une seule parole, et puis elle va être pardonnée et mise à l'écart. Ou bien je pensais encore à Marie. Marie qui est en train d'écouter l'enseignement de Jésus, et Marthe qui est affairée pour faire le repas. Marthe va dire à Jésus sur un ton de reproche que Marie ferait bien mieux de l'aider plutôt à faire le repas au lieu de l'écouter. Et on peut dire que Marthe, elle est vraiment dans son rôle de l'époque. Elle fait à manger, elle s'occupe de nourrir les hommes. Et Marie, elle est dans une autre situation. Elle est assise en train de recevoir un enseignement, en train d'être instruite. Et ça, bien normalement, c'est les hommes. Les hommes qui recevaient l'enseignement et l'instruction. Et là, Jésus dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et là, on voit que Dieu, eh bien, voulait donner et instruire particulièrement aussi les femmes dans les choses de Dieu. Et quand on regarde les mouvements féministes, en tout cas à l'origine, les femmes qui ont commencé à lutter pour défendre les autres femmes, eh bien, une des choses importantes, c'était l'éducation. Que les femmes puissent accéder à l'éducation au même titre que les hommes. Mais Jésus, déjà, voulait enseigner et voulait que les femmes reçoivent tout autant que les hommes. Ensuite, quand on regarde le ministère du Seigneur, on voit que les femmes vont être omniprésentes tout au long de son ministère, et puis jusqu'à sa mort et jusqu'à sa résurrection. Il était entouré de femmes, et elles étaient à côté des apôtres, elles avaient une part, elles n'étaient pas écartées. Et on peut dire que le christianisme, sans conteste, a vraiment apporté une évolution, quelque chose de positif à la condition féminine. On en parlait donc à l'étude biblique cette semaine. On citait ce passage d'Éphésiens 5. Et donc, il est parlé du mariage et de la relation homme-femme. Et on voit Dieu qui dit, par la bouche de Paul, que les hommes doivent aimer leur femme comme leur propre corps, et qu'ils doivent aimer leur femme même jusqu'à se livrer en sacrifice pour elle, comme Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour son Église. Et si vous remettez ça, encore une fois, dans le contexte de l'époque, mais c'était pas du tout comme ça qu'on agissait vis-à-vis des femmes. Les hommes ne se sacrifiaient pas pour les femmes, et pourtant, Dieu dit, c'est ça que vous devez faire. Donc on voit que là, il protège la femme, il l'entoure, et donne des règles qui vont lui être vraiment profitables, bénéfiques. Ensuite, il faut souligner en gras que Dieu, dans sa parole, ne range pas l'homme et la femme comme supérieurs, inférieurs. Parce qu'on a tendance à prendre un raccourci. Ça n'a pas été, ça n'a jamais été la pensée de Dieu de dire l'homme est supérieur, la femme est inférieure. Juste, ils sont différents, à la fois semblables et à la fois différents. Les deux à la fois. Ainsi, quand on lit « femme, que chacune soit soumise », ça ne signifie pas « femme, vous êtes inférieure par nature, dans votre condition, dans votre être ». Et le mot « soumise », tout de suite a une connotation qui est négative, qui est mauvaise. Mais il ne faut pas le regarder comme ça, mais plutôt comme une nécessité dans les relations. Jésus-Christ était soumis à son Père, il n'était pas inférieur à son Père. Il était à l'égal de son Père. Mais il prenait quand même une position de soumission. Et c'est touchant de voir que Jésus ne s'est pas senti lésé parce qu'il avait pris cette position de soumission. Pas du tout. Ça signifie qu'il est possible d'accepter une attitude de soumission sans se sentir lésé ou inférieur. Ou Jésus ne s'est pas senti inférieur à son Père, ou il n'a pas vécu cela comme étant une injustice. Donc c'est possible et c'est quelque chose d'important à rappeler. Alors, exception culturelle ou règle. On va regarder donc de nouveau ces versets. Il dit « comme dans toutes les églises des saints », donc la fin du verset 33, verset 34, « comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. » Alors j'aimerais qu'on se pose deux questions, et on va répondre à ces deux questions. La première question, c'est « est-ce que l'enseignement de Paul est une exception pour l'église de Corinthe, ou est-ce que c'est la règle que Dieu souhaite pour toutes les époques et tous les lieux ?» Et la deuxième question, c'est « qu'est-ce que signifie se taire dans l'assemblée ?» Alors d'abord, est-ce que l'enseignement de Paul est une exception de l'époque ou de la ville de Corinthe ? Et on va regarder ce que disent d'abord les textes. La première chose, c'est que Paul dit « comme dans toutes les églises des saints ». Comme dans toutes les églises des saints. Donc on n'est pas ici en présence d'une exception pour l'église de Corinthe. Hein. L'église de Jérusalem, elle appliquait la même règle, la même manière. Et toutes les autres églises, elles appliquaient aussi la même règle. Donc ce n'est pas une exception pour le lieu. Ce n'est pas non plus une exception culturelle, parce que dans tout le bassin méditerranéen, eh bien, on appliquait la même règle, même de l'autre côté, où culturellement il pouvait y avoir des différences, eh bien, c'était toujours la même chose, le même enseignement qui était dispensé. Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Et puis il répète une deuxième fois, verset 35, « il est malséant à une femme de parler dans l'église ». Quand on dit ça, on se dit, mais est-ce que je comprends bien le passage ? Est-ce que Paul est bien en train de dire qu'une femme ne doit pas parler dans l'assemblée ? Donc, question. Quand on lit ça, on se dit, mais la chose semble rude, directe. Est-ce que c'est bien ce qu'il a voulu dire ? Et il semble d'abord que des femmes intervenaient au milieu de la cacophonie de Corinthe. Donc, il y avait les langues, il y avait les prophéties, tous en même temps, et en plus de ça, eh bien, il y avait des femmes qui parlaient. Donc, elles pouvaient parler. Donc, il emploie le mot « parler » vraiment. Alors, est-ce que certaines bavardaient ? Est-ce que certaines arrêtaient aussi quelqu'un qui était en train de donner un enseignement et se mettaient à poser des questions, puisque il va leur dire un petit peu plus loin ça, hein, il va suggérer cela. C'était vraiment la cacophonie. Et Paul ici arrête tout et dit que les femmes d'abord se taisent. Il a mis de l'ordre au sujet des langues, il a mis de l'ordre au sujet des prophéties, et maintenant il dit « femmes, taisez-vous ». Et en réfléchissant à ceci, je pensais au Seigneur Jésus qui disait « en vérité, je vous le dis ». Et il répète, il dit « en vérité, je vous le dis ». Et on voit que dans la Bible, dans la répétition, eh bien, Dieu voilà, dit « attention, soyez attentifs ». C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et d'abord, dans ce verset, on a vu, Paul le répète deux fois dans la même parole. Et puis ensuite, l'apôtre, poussé par le Saint-Esprit, va répéter cet enseignement en le communiquant à un jeune pasteur, donc c'est Timothée. Il va lui écrire une lettre et il va de nouveau lui donner cet enseignement et lui dire que ben, ça va être à lui maintenant de le dispenser dans toutes les églises et même après sa mort, après la mort de Paul. 1 Timothée 2, 11 à 15, on va lire ensemble ce passage. 1 Timothée 2, 11 à 15. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins préservée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. La première chose qu'on remarque, c'est que la formulation est un peu la même, sensiblement la même. La première épître à Timothée a été écrite 10 ans, à peu près 10 ans après l'épître aux Corinthiens. Donc 10 ans ont passé et l'enseignement est toujours le même. Paul n'a pas varié du tout dans son enseignement. Donc il est question de nouveau d'écouter l'instruction avec une entière soumission. Mais on voit que la pensée se précise quand même, parce qu'il n'est pas juste question de parler ou de poser une question, mais le sujet, c'est le fait d'enseigner ou de prendre de l'autorité sur l'homme. Alors, quand on lit ce passage, je ne pense pas que ce soit un passage qui soit ambigu, obscur, vraiment, c'est difficile à comprendre. Dieu a voulu dire quelque chose par la bouche de Paul. Paul a dit ce que Dieu a voulu dire. Il a dit avec les mots qu'on peut comprendre. Alors, certains vont s'appuyer sur le fait que Paul dise « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Donc, ils se disent « c'est un avis personnel ». Ici, Paul donne son avis. Voilà, c'est moi qui ne permets pas. Les autres, je ne sais pas. Mais moi, c'est ainsi que ce sera. Donc, ça ne serait pas à le prendre à la lettre. Mais si on commence à faire un tri comme ça, et à enlever cette parole de l'apôtre Paul, eh bien, on peut commencer aussi à enlever les paroles des prophètes. Et certaines paroles des prophètes, se disant, ben là, je ne suis pas très sûr que c'est la parole de Dieu. Et puis après, on peut enlever les paroles des évangélistes. Est-ce que vraiment, ils ont rapporté la chose telle qu'ils l'ont vue? Est-ce qu'ils n'ont pas, finalement, mis un peu de leur pensée dans tout ça? Et puis, on peut ôter des paroles. Et puis, on peut ôter les paroles, ensuite, de ceux qui ont écrit les épîtres. Et finalement, qu'est-ce qui nous reste de la parole de Dieu? Et soit toute écriture est inspirée de Dieu, soit aucune écriture est inspirée de Dieu. Donc on accepte, toute écriture est inspirée de Dieu. Et on voit que... on voit aussi que ce n'est pas sa pensée personnelle, par le fait qu'il va s'appuyer sur l'histoire de la chute. Et la chute donc, d'Ève dans le jardin d'Éden explique la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que la femme enseigne ou prenne de l'autorité sur l'homme. Il dit qu'Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable. Alors, quand on lit ça, est-ce qu'on doit comprendre que puisqu'elle a été séduite, alors, eh bien, du coup, elle a perdu un droit d'exercer une autorité? Non, pas du tout, puisque Paul dit juste avant, car Adam a été formé le premier, et puis Ève ensuite. Et là, on voit qu'il y avait un ordre dans la création. Adam a été formé le premier, Il a reçu des ordres, il a reçu des responsabilités, et puis ensuite, Dieu a créé, il a formé Ève, tirée de l'homme, pour être son aide. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc une aide qui va venir à ses côtés, à côté d'Adam. Et une fois que Dieu a créé la femme, il s'est tourné vers Ève pour lui donner les mêmes ordres qu'Adam, ou lui confier les mêmes responsabilités qu'à Adam, mais il a laissé le soin à Adam de dire à sa femme, « Eh bien, voilà ce que Dieu veut que nous ne fassions pas, nous ne touchions pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et nous pouvons manger de tous les autres arbres. » Et donc Adam était celui qui devait venir mettre de l'ordre par sa parole auprès de son épouse. C'est lui qui devait conduire, diriger, enseigner, protéger, mettre de l'ordre par sa parole. Et ensuite, quand on lit l'histoire, on voit que l'histoire, elle corrobore, elle appuie, elle confirme par le fait que la femme a besoin, pour le fait que la femme a besoin de l'homme pour la protéger. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir la chute. Puisque Ève s'est laissée séduire par le serpent. Et on voit que la Bible enseigne que de par la nature de la femme, la Bible dit, elle parle d'un sexe faible, non pas parce que c'est un sexe qui est inférieur, encore une fois, mais un sexe qui est différent et qui a certaines faiblesses. Je pense que les hommes ont d'autres faiblesses. Mais de par, eh bien, certaines de ces faiblesses, de par peut-être sa sensibilité, qui est une qualité, mais qui peut aussi, eh bien, lui être préjudiciable parfois, la femme peut être trompée facilement par le diable. C'est ce qui s'est passé. Et on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est hypothétique, qui pourrait arriver, mais plutôt d'une réalité biblique. La différence dans sa féminité la rend plus vulnérable à la séduction du diable. C'est pourquoi Ève a été formée après Adam. Elle devait se tenir derrière Adam, et Adam devait la protéger. Adam, il est dit, n'a pas été séduit. Est-ce qu'il faut dire qu'il est innocent ? Non. Ailleurs, on lit dans Romains que Adam a péché. Donc lui aussi a péché. Et il a péché comment ? En laissant Ève faire sa propre volonté au lieu de la garder, au lieu de la protéger. Et donc, il s'est rendu coupable de suivre sa femme plutôt que de lui donner la direction. Et au final, on peut dire, ben, Adam est responsable. Il est responsable. Mais sa chute n'innocente pas Ève. Ève a été séduite, elle s'est laissée séduire. Et le malheur, c'est que la femme a cette tendance à vouloir prendre autorité sur l'homme, ou enseigner, hein, prendre les devants, et l'homme a cette tendance à négliger sa place de responsable et d'autorité vis-à-vis de sa femme. Mais Dieu a créé Adam en premier, puis la femme. Et on voit qu'il y a un ordre dans la création, un ordre précis. Et Dieu a toujours respecté cet ordre, et il veut qu'on respecte aussi toujours cet ordre. Il n'y a rien qui a changé. J'aimerais qu'on voit maintenant l'ordre dans la création. Il faut rappeler cet ordre. Dieu, au commencement, crée Adam, lui donne des responsabilités, et devait protéger son couple, protéger sa famille. Ensuite, on va traverser la Bible maintenant. Donc les hommes vont se multiplier sur la terre, du fait de la chute. Il va y avoir toute l'humanité qui va tomber dans le péché, dans la perversion, dans la violence, dans la débauche. Mais Dieu va choisir un homme, juste de son temps, Noé. C'est à cet homme que Dieu va dire, fais-toi une arche de bois de gopher, j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Là encore, c'est l'homme qui reçoit des ordres et il est chargé de protéger, chargé de construire une arche, chargé de garder sa famille. Puis Dieu va choisir un autre homme, Abraham, il va l'envoyer au pays de Canaan, avec la promesse d'avoir une descendance bénie, laquelle deviendrait une bénédiction pour toutes les nations, Israël. Et puis, on arrive au temps des patriarches. Patriarche, eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est pas matriarche, hein. C'est patriarche, donc de père. Ces familles qui vont être sous l'autorité d'un chef, qui va avoir la responsabilité de veiller, de protéger, de prendre soin, d'enseigner sa famille, la responsabilité aussi d'offrir des sacrifices pour sa famille. On pense à Job, Job qui offrait des sacrifices pour ses enfants, pour sa famille, pour les siens. Et puis, Abraham et Sarah vont avoir Isaac. Isaac va avoir Jacob. Jacob va avoir ses 12 fils qui vont donner les 12 tribus d'Israël. On entre dans la période de l'esclavage, de l'Égypte. Alors Dieu choisit un autre homme, Moïse, pour être le libérateur du peuple. C'est Moïse qui va conduire tout Israël hors d'Égypte. C'est lui qui va recevoir également la loi. Et dans cette loi, Dieu établit des hommes pour être des sacrificateurs, avec les Lévites. Donc ce sont eux qui vont enseigner, encore une fois, la parole de Dieu. Ce sont eux qui vont faire tous les sacrifices pour le peuple. À un moment, lorsque Moïse est dans le désert, la responsabilité est trop grande pour Moïse. Il est submergé. Jéthro arrive et lui dit « Tu vas prendre 70 hommes avec toi qui vont t'épauler et t'aider au niveau des hommes. » Et puis Moïse est remplacé par Josué, son serviteur. C'est lui qui va conduire la conquête, qui va être la tête et non la queue. Et puis vient la période difficile des juges, essentiellement des hommes, qui vont être les libérateurs, donc du peuple. Et dans cette période des juges-là, il y a comme une parenthèse. C'est là qu'on voit Déborah. Déborah juge en Israël. Et c'est une exception. Une femme comme juge. Mais c'est intéressant de voir que cette femme ne va pas essayer d'aller prendre l'autorité des hommes. Au contraire, elle est juge parce que Dieu l'a établie juge. Mais elle va aller chercher Barak et elle va lui dire « Barak, c'est à toi d'aller attaquer Sisera. » Et qu'est-ce qui se passe? Barak, il a peur et donc il dit « si tu viens avec moi, j'irai, mais sinon j'irai pas. » Et qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'à cette période-là, en Israël, il n'y avait pas un homme qui était courageux. Il n'y avait pas un homme qui était capable de dire « on y va ». Alors, bien, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a choisi une femme. Parce qu'il n'y avait pas d'homme, il a choisi une femme. Mais après cette génération, 40 ans plus tard, Déborah meurt, elle est remplacée de nouveau par des hommes. Et on termine la période des juges. Ensuite, on arrive à la période des rois. Là encore, de Saül à Salomon, de Roboam à Sédécias, de Jéroboam à Osée, de nouveau des hommes. Pendant cette période des rois, Dieu appelle des hommes pour être des prophètes, d'Ésaïe à Malachie, des hommes pour recevoir la parole inspirée de Dieu. Et on a là l'Ancien Testament qui s'achève. Transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu fait appel à un homme, Jean-Baptiste. Et puis vient Jésus-Christ, qui naît dans un corps d'homme. Jésus-Christ va se choisir 12 hommes, les apôtres. Il va même choisir après 70 hommes, 70 disciples, qui vont aller répandre cette bonne nouvelle du royaume. Notre Seigneur va mourir pour les péchés, il va ressusciter d'entre les morts. Il va remonter au ciel, il baptise son église, et là il envoie ses apôtres prêcher l'évangile. L'apôtre Paul va planter des églises. Et qu'est-ce qu'il fait? Là où il plante des églises, il établit des anciens, appelés aussi évêques ou pasteurs, de nouveau des hommes. Ce sont eux qui vont avoir la charge d'enseigner la parole de Dieu. Et on voit que depuis l'origine de la Genèse jusqu'à aujourd'hui, le plan de Dieu a toujours été de confier l'autorité et l'enseignement à des hommes. Ça ne veut pas dire que Dieu ne pouvait pas faire une exception. Il a fait parfois une exception, on l'a vu avec Déborah. Il a fait aussi des exceptions, on l'a vu, il y a dans les Écritures des prophétesses donc, qui ont donné un enseignement. Donc il y a aussi des exceptions, mais la règle établie par le Seigneur, c'est l'autorité confiée aux hommes. Et je crois que nos 19e et 20e siècles ont amorcé un changement qui ne correspond pas au plan de Dieu. Première femme pasteur en Allemagne, 1873. Première femme pasteur en France, donc quelqu'un, un nom qu'on connaît, Madame Madeleine Blocher-Sayens, nommée pasteur de plein droit en 1929. Et puis après, les femmes pasteurs se sont multipliées. Mais si on regarde l'histoire du monde, on voit que ça va de pair aussi avec les mouvements féministes. Voilà, tout était ensemble. À ce moment-là, la libération de la femme, l'égalité de la femme et l'accession de la femme aussi aux places que les hommes avaient. Et sans aucun doute, dans les mouvements féministes, certains de leurs combats étaient justes. Il y avait des combats qui étaient normaux. Mais on a vu, Jésus ne les avait pas attendus. Bien avant elles, il avait commencé déjà à défendre les femmes. Et si on avait suivi son enseignement, eh bien, les femmes auraient été respectées. Mais c'est encore le péché dans le cœur de l'homme qui a fait que ça a été renversé au cours de l'histoire. Et je ne crois pas que ce soit aider les femmes que de vouloir l'égalité en tout point et confier l'autorité en tout point comme aux hommes, le partage de l'autorité. Ce n'est pas dans le plan de Dieu, ni pour le bien de la femme, ni pour le bien de l'homme. Dans 1 Corinthiens 11, on a vu que Dieu a voulu qu'il y ait une tête, un chef, à l'homme, c'est Christ. Et il a voulu qu'il y ait une tête, un chef à la femme, c'est l'homme. Et rien à voir avec une domination. Christ ne nous domine pas, il nous aime. Il nous montre qu'il nous aime sans cesse. Il prend soin de nous. Il est mort pour nous. Il s'est livré pour nous. Et il continuera à prendre soin de nous. Et en donnant à la femme un chef, la pensée de Dieu était un homme à l'image de Christ. En lui donnant un chef, la pensée de Dieu était un homme à l'image de Christ. Et malheureusement, si ça n'a pas toujours été le cas, si les femmes n'acceptent pas ou ne tolèrent pas l'autorité masculine, ben c'est le péché. Et si les hommes n'usent pas de leur autorité avec bienveillance et amour, ben c'est encore le péché dans le cœur. Mais le plan de Dieu, c'est justement un rétablissement de l'ordre divin. Et en Christ, la femme ne devrait pas jouer des coudes avec l'homme pour pousser l'homme ou essayer de prendre autorité sur lui. Le passage et les passages me semblent assez clairs, c'est limpide. Et en Christ, l'homme, lui, devrait agir à l'image de son chef, c'est-à-dire en étant une autorité qui est bienveillante et qui est protectrice. Alors avant de répondre à la deuxième question, qu'est-ce que ça signifie se taire dans l'assemblée ? J'aimerais d'abord regarder 1 Timothée 2,15, parce que c'est un verset qui pose question. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Paul dit, « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. » Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Donc, il est parlé de sauver ici. Il n'est pas question d'être sauvé pour l'éternité. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui n'ont pas eu d'enfants n'iront pas au ciel, et celles qui ont eu une postérité, des enfants, iront au ciel. Mais quand on regarde le contexte des versets qui précèdent, on voit il est question de la femme qui veut enseigner, qui veut prendre autorité sur l'homme. Et ce n'est pas son rôle, mais en fait, Paul soulève ici un désir intérieur de prendre cette autorité. Et c'est comme si Paul va donner une porte de sortie aux femmes. Il leur donne une porte de sortie à ce désir intérieur. Il dit « Elle sera sauvée en devenant mère. » Ça signifie que dans la maternité et dans l'exercice de son autorité auprès de ses enfants, dans son foyer, la femme va se sauver elle-même. Elle va se protéger elle-même. Elle se protégera d'avoir ses désirs qui se portent sur son mari. Vous vous souvenez de ce passage dans la Genèse ? C'était la malédiction que Dieu a donnée suite à la chute. Il a dit, tu enfanteras avec douleur, etc. Mais aussi, tes désirs se porteront vers ton mari. Ça, c'est un jugement. En fait, ça signifie que tu vas vouloir prendre autorité sur ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit, en devenant mère, elle sera protégée de ce désir de prendre autorité sur son mari. Et la mère, elle règne en quelque sorte sur son domaine. Elle va régner sur son foyer, régner sur sa maison, sur ses enfants. C'est elle la reine du foyer. Elle va avoir des responsabilités qui ne sont pas les moindres, qui sont importantes. Quand on lit le chapitre 31 des Proverbes, on voit une femme incroyable. Une femme qui est pleine de capacités, pleine de responsabilités et qui règne sur sa maison, qui s'occupe de la vêtir, qui s'occupe de la nourrir, qui a des projets, qui achète un champ, qui agit, elle fait des choses. Elle est active. C'est une femme vraiment qui agit et qui n'est pas frustrée. Pendant que son mari, lui, siège à la ville. Ça veut dire qu'il n'y a pas un conflit d'autorité. Lui, il exerce son autorité sur son domaine. Et la femme exerce son autorité sur son domaine. Et ça, c'est ce que Dieu a voulu à l'origine, et c'est ce qu'il veut toujours aujourd'hui. L'homme et la femme sont complémentaires, et ils peuvent vivre en harmonie. Et même en symbiose dans le couple. C'est merveilleux ça. Vraiment unis si chacun est à sa place. Si le mari aime sa femme, si la femme fait confiance à son mari et elle se soumet entièrement à lui. Maintenant, est-ce que dans l'Église, les choses sont différentes ? Ben non. Pourquoi il y aurait une différence dans l'Église ? Depuis l'origine, Dieu a donné l'autorité et l'enseignement à l'homme. Rien n'a changé aujourd'hui. L'humanité a changé. Ah oui. Les femmes ont changé en prenant la parole aussi. Les hommes ont changé en ne prenant plus la parole. Ça, c'est vrai aussi. Mais Dieu, lui, il n'a pas changé. Et sa parole, elle n'a pas changé. Elle est toujours la même. Et l'Église de Jésus-Christ, elle doit continuer à être conduite par les hommes. Alors, j'en arrive pour terminer à la deuxième question. Qu'est-ce que signifie se taire dans l'Assemblée ? Est-ce que c'est apprendre d'une manière qui est absolue et que les femmes ne devraient pas dire un mot dès qu'elles entrent dans ce lieu ou dans un rassemblement avec des frères et sœurs ? Alors, je ne pense pas ça, bien sûr. D'abord, pourquoi ? Parce que Paul dit cela à une assemblée qui est vraiment dans le désordre. C'est un vrai désordre. Gros problème à Corinthe, c'est que chacun faisait ce qui lui plaisait. Donc, il n'y avait plus de règles. Et je me suis dit, c'était l'anarchie vocale. Anarchie complète. Hein, je vous l'ai dit, les langues, les prophéties, l'intervention des femmes, une vraie anarchie. On interrompait certainement les hommes dans leur enseignement pour leur dire, mais non, c'est pas juste. Paul dit, si elles veulent s'instruire, eh bien, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc, ça veut dire qu'il y avait une prise de parole à l'encontre de l'autorité, de l'enseignement des hommes. Il faut relever aussi que Paul dit, au chapitre 11, « Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. » C'est comme si elle était rasée. Ça signifie qu'une femme pouvait aussi prier, apparemment, et même partager une parole qu'elle avait reçue de Dieu. Mais c'est intéressant de voir que Paul dit qu'elle doit le faire avec un signe de l'autorité dont elle dépend, en l'occurrence le voile. Le voile qui voulait dire quoi ? Sa soumission à l'homme. Ça veut dire, oui, elles peuvent le faire, mais sous l'autorité de l'homme, en restant en dessous et dans la dépendance de l'autorité. Donc, sous son chef qui était... Et puis, si on prend ce deuxième passage donc, qu'on a vu dans 1 Timothée, la question, c'est vraiment donc, cette prise d'autorité sur l'homme, l'enseignement. Et il dit, mais ce n'est pas sa place de devenir le chef, de devenir l'autorité, la tête. Ce n'est pas à elle de donner la direction et puis que les hommes suivent. Faire ça, c'est renverser l'ordre établi par Dieu. Donc, on voit les deux passages. Premier passage, c'était un vrai désordre du fait de chacun qui prenait la parole à tort et à travers. Et deuxième passage, donc c'était une volonté d'enseigner, de prendre l'autorité sur l'homme. Et donc, je ne suis pas pour un silence absolu des femmes dans l'Assemblée. Mais je crois qu'elles doivent toujours rester sous une autorité. Et les femmes peuvent également enseigner. Paul va dire, il va donner cette recommandation, il va dire que les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions donc, à celles qui sont plus jeunes. Donc là, on parle d'une femme qui va enseigner d'autres femmes. Donc voilà, il n'y a rien de mauvais en cela, au contraire, c'est une très bonne chose. Donc la femme a une place dans l'assemblée, mais elle doit rester en retrait derrière l'homme. Et ce sont prioritairement les hommes, et là je m'adresse à vous les hommes, ce sont prioritairement les hommes que l'on doit entendre dans l'assemblée. C'est à eux que Dieu a confié la responsabilité d'apporter de l'ordre par leurs paroles. Et donc, ce sont eux que Dieu veut entendre exhorter par un verset, par une parole. Ce sont eux que Dieu veut entendre enseigner. Ce sont eux que Dieu veut entendre prier, invoquer l'Éternel, le louer, l'adorer. Ce sont eux, premièrement, que Dieu veut entendre bénir, faire du bien par leurs paroles. Si on offre la parole aux femmes, elles ne pêchent pas en la prenant. J'aimerais vous lire une parole de Luther. Il a dit en 1521, « L'ordre, la bienséance, l'honneur exigent que les femmes se taisent lorsque les hommes parlent. Mais lorsqu'aucun homme ne parle, il devient nécessaire que des femmes prêchent. » C'est fort, ça, hein ? Mais je pense que c'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Si un homme parle, si un homme enseigne, si les hommes sont là pour faire usage de l'autorité qui leur est confiée, alors ce n'est pas à la femme de l'interrompre, de le reprendre, de le contredire, d'attaquer son enseignement ou de vouloir s'opposer à son autorité. La parole de Dieu dit, comme dans toutes les églises, les saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Mais si l'homme ne prend pas la parole quand on lui offre, quand on lui demande de la prendre, alors c'est l'homme qui se rend coupable. Et là, c'est le silence des hommes qui est coupable. Et là, ben c'est normal que les femmes remplissent le vide que les hommes laissent. Et elles ne sont pas coupables de le faire. Alors, eh bien, pour conclure, Dieu veut que chacun prenne sa place dans l'ordre qu'il a lui-même établi. Et si chacun fait ce qu'il doit faire, Dieu sera honoré. Malgré ce développement, peut-être que certains ou certaines ne sont pas totalement convaincus que c'est ce que Dieu veut pour l'homme et pour la femme. Mais Dieu savait que cette question, elle serait âprement discutée. Alors, eh bien, Paul a ajouté, versets 36 à 38, « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. » Ce qu'il vient de dire, il dit, c'est un commandement du Seigneur. Ce n'est pas ma pensée, dit l'apôtre, c'est un commandement de Dieu. Maintenant, si quelqu'un veut l'ignorer et en faire qu'à sa tête, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Chacun sera responsable pour lui-même. Mais le meilleur, c'est de prendre sa place et de faire ce que Dieu attend de nous. C'est là où on est heureux. C'est là où on est en paix. Être ce que Dieu veut que nous soyons.